Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Bonjour Fabrice.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio, chaque jeudi 10h-11h. Objectif physio nutrition. Remercie notre partenaire, le laboratoire TerraScience, qui nous permettent d'être ensemble, d'avancer, d'apprendre, de comprendre. Je peux vous dire que aujourd'hui, on est particulièrement attentif à cette émission.
Nous les hommes
et aussi les femmes qui nous écoutent de manière assez nombreuse d'ailleurs. Il y a plus, c'est marrant parce que toutes ces questions de prévention santé, les ingrédients santé, tout ça, ce sont des sujets plutôt féminins. Et donc on peut se demander effectivement qu'est-ce qu'on fait nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait.
Le porte la vie, Fabrice. Ah oui. Le porte la vie. Quand on porte la vie, on porte un enfant toute une vie. Donc on est, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la prévention que les hommes.
Voilà, c'est une explication.
On est des patachons.
C'est une explication.
Mais on change, on se féminise.
On change. On progresse. On a droit d'évoluer. Donc aujourd'hui, c'est une émission consacrée à la femme. Et vous allez d'abord nous expliquer comment fonctionnent les hormones féminines, docteur.
Tu m'as fait peur, Fabrice. Je croyais que tu voulais me demander comment fonctionne une femme. Je suis incapable de te le dire.
J'ai acheté le manuel déjà. Ça fait deux pages. Non, je rigole.
Je comprends d'un point de vue physiologie, mais là, je suis capable de l'expliquer. Mais sinon, pour le reste, chaque femme est unique et compliquée, mais merveilleuse. Pas compliquée, c'est pas vrai.
Ouais, c'est pas ce qu'on m'avait dit en antenne. En antenne, vous avez mis, on supporte pas.
Non, c'est de l'humour bien sûr.
Oui, on précise.
Alors, les femmes, il y a des hormones féminines, mais que nous partageons aussi. Hein. Les hommes, nous les avons, ces hormones-là, simplement des quantités différentes. Et la semaine dernière, je vous ai parlé de la fabrication des hormones sexuelles à partir du cholestérol. À partir du cholestérol, mesdames, vous allez fabriquer de la progestérone, plutôt en deuxième partie de cycle après votre ovulation, quand vous êtes en âge de procréer. Vous allez aussi faire à partir de là de la testostérone un petit peu, parce qu'il vous en faut. Et vous allez faire différents types d'œstrogènes. Alors, quand vous êtes de la puberté à la ménopause, en âge de procréer, vous faites plutôt de l'œstradiol. Et quand vous êtes enceinte, c'est plutôt de l'œstriol. Tout ça, c'est des œstrogènes. Et quand vous êtes avant la puberté et après la ménopause, vous faites plutôt des œstrones. Voilà, c'est des différents œstrogènes qui n'ont pas tout à fait la même puissance d'action. Et bien sûr que l'œstrogène le plus puissant, c'est le moment de la phase d'activité génitale, c'est l'œstradiol. Voilà, ça c'est une chose. Tout ça c'est fabriqué, donc, comme je vous disais, à partir du cholestérol. Et comme je le dis, j'adore le dire toujours, que vous êtes un homme amélioré, parce que pour faire de l'œstradiol, vous prenez de la testostérone, vous le transformez un petit peu, vous l'aromatisez grâce à une enzyme qui s'appelle aromatase. On va aromatiser la testostérone et en faire de l'œstrogène, et vous allez faire beaucoup beaucoup d'œstrogène en transformant cette testostérone, entre autres, en œstradiol. Donc, vous êtes un homme amélioré. Ça, c'est pour me faire que des amis. À côté de ça, donc, il y a toujours pareil, notre cerveau qui gouverne. Mesdames, vous êtes cyclique. Donc, de manière cyclique, vous allez sécréter, et c'est le cerveau qui décide, notamment l'antéhypophyse. Il y a des hormones qu'on appelle FSH et LH, que nous, on mesure dans le sang, par exemple, et qui vont, FSH va stimuler la fabrication des œstrogènes, et la LH va stimuler la fabrication de la progestérone, enfin, la fabrication de corps jaune qui se fait à partir de l'ovocyte qui n'a pas été fécondé. Donc, dès que vous ovulez, s'il n'y a pas de fécondation, cet ovule devient corps jaune. C'est le corps jaune qui va sécréter la progestérone et l'œstrogène en deuxième partie de cycle. Mon Dieu, que c'est compliqué tout ça. Mais bon, globalement, voilà comment ça fonctionne. Et tout ça va faire que, par exemple, votre organe génital, donc l'utérus avec l'endomètre qui tapisse l'utérus, va être très sensible à ces changements hormonaux durant le cycle. Et c'est ce qui va produire vos règles. C'est-à-dire qu'en première partie de cycle, vous augmentez, on appelle ça la phase de prolifération, vous faites proliférer les cellules d'endomètre dans votre utérus, et après l'ovulation, il y a une phase de sécrétion où là, ça continue un petit peu à grandir. Et comme il n'y a pas eu de fécondation, s'il n'y en a pas eu de fécondation, paf, vous avez vos règles qui enlèvent cet endomètre qui s'était hypertrophié pour repartir sur un nouveau cycle. Cette hypertrophie de l'endomètre est gouvernée par les hormones de manière cyclique, qui sont elles-mêmes gouvernées par votre petit cerveau, enfin grand cerveau, excusez-moi. Et à chaque cycle, théoriquement, il y a un seul élu, il y a un seul petit ovule qui va pouvoir être fécondé. Des fois, il peut en sortir deux et ça fera des vrais jumeaux. Mais Non, je dis une bêtise, ça fera des jumeaux différents parce qu'il y aura deux spermatozoïdes, mais il peut y avoir des vrais jumeaux à cause de ça aussi. Et donc, du coup, à chaque cycle, théoriquement, il y a un seul élu par cycle. Il va y en avoir un qui pourra être fécondé, un ovule, et du coup, la vie va pouvoir se continuer ainsi. Et c'est comme ça que vos hormones fonctionnent avec une fin qui est la ménopause, parce que Dame Nature a décidé qu'autour de la cinquantaine, vous ne devriez plus avoir d'enfants. Et donc, du coup, il va y avoir la mise au repos des ovaires et donc le cycle qui va disparaître, la ménopause qui va arriver et du coup plus de procréation possible. Alors, je pense que la Dame Nature est sage, elle a décidé qu'au bout de 50 ans, à l'âge de 50 ans, il ne fallait plus faire des enfants, sinon ça ferait des vieux parents et du coup peut-être que c'est plus sensé de s'arrêter un petit peu avant. Vous savez que l'âge optimal de la procréation pour une femme, c'est entre on va dire 25 et entre 20 et 30 ans. Voilà. À partir de la trentaine, vous commencez à avoir des ovulations des fois de moins bonne qualité. Et la moyenne d'âge aujourd'hui, bien sûr, a tendance à... les femmes prennent des enfants de plus en plus tardivement. Et ça devient un problème parce que quand votre premier enfant, vous voulez faire à 35 ans, vous avez des capacités de procréation qui sont quand même moindres. Donc voilà. Tout ça, c'est un petit peu l'évolution sociétale, mais voilà comment ça se passe.
Est-ce qu'on peut avoir des enfants? Est-ce que, ce sera peut-être l'objet d'une émission avec peut-être encore d'autres intervenants et vous-même évidemment, mais vous savez, vous l'avez dit justement, aujourd'hui on fait des enfants de plus en plus tard. Est-ce que, par exemple, après 40 ans, une femme qui n'a jamais eu d'enfant, aujourd'hui c'est quand même possible, on le voit, ou c'est forcément sujet à beaucoup de précautions?
Alors, les précautions, c'est qu'on sait qu'au-delà d'un certain âge, c'est pour ça que certains tests sont faits, il y a plus de risques de malformation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une fécondation, mais avec un peu plus de risques, par exemple, de trisomie 21. Donc, il y a des tests qui sont faits systématiquement au-delà de 35-37 ans. 37-38 ans, de manière légale, je crois que c'est 37, il me semble, pour pouvoir donc prévenir. Et donc, on a des tests systématiques pour voir s'il y a une trisomie, parce qu'au-delà d'un certain âge, il y a des malformations plus... facilité malheureusement. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, il peut y avoir des grossesses à 40-45 ans encore. Le risque est minime, c'est-à-dire le pourcentage est beaucoup moindre qu'à l'âge de 30 ans, mais il peut y avoir quand même des cycles féconds et donc une ovulation qui va pouvoir produire un petit embryon. Et bien sûr, c'est toujours possible, mais avec beaucoup moins de risques. Beaucoup moins de chance.
Voilà,
c'est
beaucoup moins risque, de...
c'est une chance.
On voit le père qui est traumatisé.
Plus de risques et moins de chance.
On va marquer une petite pause, tiens, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio, vous restez avec nous.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Femme,
je vous aime.
Ah, j'étais sûr que vous alliez la faire. Ça, j'ai même pas terminé, je le savais.
C'est pour ça que j'ai senti le petit creux là. Mais ça y est, c'est pour moi ça.
C'était pour vous. Petite passe D en profondeur. Femme, tête décisive, Jacques Bassier.
Excellente équipe.
Sur Nutri Radio, on parle de la femme. Vous nous avez expliqué comment fonctionnaient les hormones féminines. Et maintenant, vous pouvez peut-être nous dire aussi à quoi servent les estrogènes.
Ben voilà, une hormone importante, bien sûr, pour la femme, c'est l'œstrogène. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'œstrogène, on parle des œstrogènes. Dans une émission précédente, je vous ai expliqué qu'il y avait aussi des facteurs environnementaux, le bisphénol A, le BBP, le DDT, le PCB, qui sont des polluants environnementaux, qui sont des œstrogènes, comme des structures œstrogéniques. Donc, ceux-là vont se rajouter aux œstrogènes naturels de la femme, mais il y a aussi dans l'alimentation les phyto-œstrogènes, la gynestéine, la diazéine dans le soja, le cousmétrol, les transresveratrol, les stilbènes, c'est dans le resveratrol, c'est aussi un phytoestrogène, ou les lignanes dans le lin, par exemple. Tout ça, c'est des phytoestrogènes. Et après, il y a des médicaments de type œstrogénique, comme le tamoxifène, qu'on utilise dans les cancers du sein, le raloxifène, qu'on utilise dans l'ostéoporose, par exemple, qui vont avoir des effets œstrogéniques. Donc aujourd'hui, c'est ce pool d'œstrogènes qu'il faudrait essayer d'appréhender, ce qui est extrêmement compliqué en pratique, pour dire comment ça marche. Or, ce pool d'œstrogènes, justement, pas que ce que vous fabriquez, mais ce que vous consommez quelque part aussi avec, va avoir des récepteurs sur tout. L'utérus, le vagin, les seins, c'est l'appareil féminin, c'est normal, mais aussi sur le tract urinaire. Par exemple, les œstrogènes stimulent la contention au niveau de la vessie, ça veut dire qu'en vieillissant, quand vous avez moins d'œstrogènes, il y a un peu plus aussi, à cause de ça, d'incontinence urinaire. Les os, les muscles, il y a un côté anabolisant grâce à l'œstrogène, ben, vous perdez de l'os, vous perdez du muscle en vieillissant. Le pancréas, par exemple, ça facilite la sécrétion et la sensibilité à l'insuline. Ben, on sait qu'après la ménopause, s'il n'y a pas de supplémentation hormonale, vous avez une résistance à l'insuline et un risque de diabète plus augmenté. Le tractus digestif, pareil, après la ménopause, la réparation de l'épithélium intestinal est de moins bonne qualité. Les femmes font plus de lithiase vésiculaire parce que la vésicule a des récepteurs œstrogéniques aussi et des capacités à concentrer le cholestérol et à faire des calculs avec ça dans la vésicule plus que l'homme. Au niveau cardiovasculaire, ça protège. Au niveau veineux, c'est pas très bien. Les œstrogènes, ben, on sait que certaines femmes vont avoir des problèmes veineux un peu plus quand il y a trop d'œstrogènes. La thyroïde, par exemple, a des récepteurs aussi parce que l'œstrogène vient stimuler la thyroïde. Ben, à la ménopause, il y a un peu plus d'hypothyroïdie, il y a moins de stimulation œstrogénique et certaines femmes auront un peu plus de problèmes de thyroïde après la ménopause. Et le cerveau, alors là, le cerveau, c'est pareil. Il y a tellement de récepteurs œstrogéniques dans tellement de zones du cerveau que si vous n'en avez pas ces œstrogènes, ben, votre cerveau, il n'aime pas. Alors, on parlait tout à l'heure, tu parlais de sensibilité féminine, tout ça. Ben oui, mais il y a une part de ce que vous êtes, mesdames, qui est due à vos hormones. Et quand vous avez plein de récepteurs œstrogéniques dans certaines zones du cerveau, ben vous allez développer les caractéristiques de cette zone-là, qui seront peut-être des fois l'empathie, gérer plusieurs choses en même temps, être vigilante sur plein de choses, parce que vous avez besoin de cette vigilance pour surveiller vos enfants, ainsi de suite. Donc, c'est une chose due à l'évolution probablement, mais il y a tout ça qui va se passer. Et donc du coup, ça va agir cet œstrogène sur sur l'os, vous l'avez compris, sur la sensibilité à l'insuline, sur votre immunité, ça augmente votre immunité, ça booste votre immunité, c'est plutôt anti-inflammatoire, ça augmente les capacités cérébrales de plasticité, vous allez faire de nouvelles connexions plus facilement. Ça va augmenter la densité, hein, par exemple dans les récepteurs à sérotonine, donc il y a plus de prise de recul quand il y a de l'œstrogène, et quand vous avez moins d'œstrogène, vous avez moins de prise de recul, par exemple. La fonction cholinergique aussi est améliorée sous l'œstrogène. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont dévolues, en partie en tout cas, à l'œstrogène, à la fonction œstrogénique.
Et la progestérone alors ?
La progestérone, c'est un peu le pendant. Vous avez vu dans un cycle, en première partie du cycle, vous, mesdames, vous sécrétez de l'œstrogène, et en deuxième partie, un peu moins d'œstrogène et beaucoup de progestérone. Donc, c'est cet équilibre qui est nécessaire pour la procréation. Mais si on doit résumer la progestérone, donc au-delà de la nidation, de la gestation, c'est important, c'est un anti-œstrogène. Ça vient s'opposer à des effets. L'œstrogène fait gonfler et la progestérone fait uriner, par exemple. C'est pour ça, c'est une action anti-minéralo. Corticoïdes. Les minéralocorticoïdes, c'est l'aldostérone qui retient l'eau. Ben, la progestérone s'oppose à l'aldostérone et vous fait faire pipi. C'est hyperthermisant, c'est ce qui vous donne l'augmentation de la température dans la deuxième partie de cycle. Vous savez que quand on veut connaître le moment de l'ovulation, on peut faire une courbe de température et vous avez une température en première partie qui est à 36,7, 36,8 le matin. Et dès qu'il y a l'ovulation, il va y avoir une augmentation de la température du corps à 37,2, 37,3 et ça nous permet de connaître le moment de l'ovulation. Mais tout ça, cette augmentation de température est due à la progestérone. Ça a plutôt une action aussi sédative, c'est-à-dire que ça calme, ça apaise et ça stimule au niveau cérébral, par exemple, la synthèse de la myéline. Oui, il y a plein d'actions et cette progestérone qui est énormément sécrétée par le placenta durant la ménopause, durant la grossesse, vous avez des flopées de progestérone pendant la grossesse, ça vous rend calme, apaisé. C'est l'effet progestatif parce que ça se transforme dans une autre hormone qu'on appelle l'allopregnanolone, qui est apaisante, qui est sédative. Et donc, c'est ce qui donne le côté apaisé lors de la grossesse, parce que peut-être faut pas être trop excité pendant la grossesse. Donc, vous voyez que c'est franchement, la nature est merveilleuse, c'est le fruit de l'évolution. Tout ça pour la procréation, mais au-delà de ça, ça donne des caractéristiques. Et c'est toujours un équilibre. C'est dans les hormones, en règle générale, plus encore pour les femmes par votre côté cyclique et ce côté aussi, donc vous allez vous porter l'enfant, il y aura une grossesse et l'allaitement derrière, il y a cette notion d'équilibre hormonal. Et on pourrait citer aussi la prolactine qui est importante, c'est l'hormone de la lactation. On pourrait citer bien sûr les androgènes qui sont importants pour la femme aussi, un minimum d'androgènes pour la libido par exemple. Et tout ça fait votre identité hormonale, vos particularités morphologiques aussi, dans vos caractéristiques de corps, hanches larges, grosse poitrine, pas, une peau douce ou pas, enfin, de l'acné ou pas. Tout ça, c'est en partie dû à vos hormones, ou en tout cas en partie dû à cet équilibre hormonal.
Et la physionutrition dans tout ça, vous allez me dire, eh bien on marque une pause et vous allez nous dévoiler ça dans un instant, docteur.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio. On apprend beaucoup avec vous et on vous remercie. Chaque jeudi entre 10h et 11h sur Nutri Radio. Donc, et si vous venez d'arriver, l'émission elle sera dispo en podcast à partir de 18h ce dimanche. On parle de la femme aujourd'hui. Vous nous avez expliqué comment fonctionnaient les hormones féminines, à quoi servaient les oestrogènes, la progestérone. Et donc, on se disait évidemment la physionutrition dans tout cela. Docteur,
ça sert à rien.
Ça sert à rien, encore une fois. Merci beaucoup, mais c'est pas possible. Pas possible.
Alors, s'il y a bien un secteur où c'est un peu appelé ça un secteur où la physionutrition et l'hormononutrition sont intéressantes, c'est bien l'hormonologie sexuelle. Parce qu'on a des phytoestrogènes, on a des phytoprogestatifs aujourd'hui qu'on commence à mieux connaître. On a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider à rééquilibrer. Donc une fois qu'on a compris comment ça marchait, toujours pareil, c'était la première partie, il est beaucoup plus simple de voir quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on en peut faire. Par exemple, moi je donne toujours cet exemple-là. Vous avez vu que le cholestérol est nécessaire à la fabrication des hormones, et de l'œstrogène notamment. Ben, on a un cas de figure qui s'appelle l'anorexie, où on a des jeunes femmes qui font 25, 30, 35 kilos, 40 kilos, qui n'ont plus de gras du tout, qui ont des cholestérolémies dans les chaussettes, à moins d'un gramme bien souvent. Mais bien souvent, il y a des aménorrhées, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que le système hormonal féminin ne fonctionne plus dans ces situations-là de privation de cholestérol extrême que l'anorexie va provoquer. Donc là-dessus, bon, voilà, c'est des choses comme ça qui sont... Non, on a compris, on sait ce qui se passe, on sait pourquoi il y a une aménorrhée. Il n'y a plus de cholestérol. Après, il y a des situations naturelles, comme la ménopause. Mais là, les phytoestrogènes, par exemple, comme le houblon, la sauge clarée, des dérivés de soja, des lignanes, des stilbènes. Mais c'est surtout le houblon. Là. Le houblon, dans toute la phytothérapie connue, c'est le plus fort pouvoir œstrogénique, le houblon, de toutes les plantes. Certains composés du houblon. Donc, quand on fait des concentrés de certains composés du houblon, on a un pouvoir œstrogénique par de la phyto, pas aussi fort que l'œstrogène vrai, c'est vrai, mais suffisant pour quand même avoir une action sur le corps. Par exemple, quand il y a une baisse de fonctionnalité de la progestérone, ce qu'on va avoir, on ne va pas de baisse de progestérone, mais je parle bien de fonctionnalité, dans les syndromes prémenstruels par exemple, ben on connaît des plantes ou des assemblages de plantes dans des produits qui vont permettre de soulager les jeunes femmes qui ont ces problèmes-là une semaine, 15 jours des fois avant les règles. Ça peut être très pénible, très invalidant. Et le gâtillier, l'alchimie, le griffonia dont on a parlé un petit peu, qui booste un petit peu la sérotonine, toutes ces plantes là pour avoir un effet. Quand on comprend que les syndromes des ovaires polykystiques, il y a des troubles métaboliques, il y a de l'insulinorésistance, c'est pour ça qu'on donne de la metformine, un médicament bien souvent là-dedans, il y a de l'hyperandrogénie aussi, que tout ça va nourrir le syndrome des ovaires polykystiques, ben on sait aujourd'hui qu'il y a des composés qu'on trouve dans l'alimentation mais qu'on est capable de fabriquer dans le corps qui s'appellent les inositols. Et ces inositols vont permettre de rééquilibrer et probablement d'améliorer les syndromes ovaires polykystiques et de refaire une ovulation normale, par exemple. Dans l'endométriose, on ne va pas traiter avec la physionutrition l'endométriose, mais on va pouvoir aider à soulager les douleurs, ce qui est énorme déjà. On va traiter, parce que le traitement de l'endométriose aujourd'hui, c'est la chirurgie ou les castrations chimiques. C'est-à-dire qu'on va donner des pilules qui vont arrêter les sécrétions hormonales. Du coup, il n'y a pas la stimulation. Mais on y reviendra, parce que l'endométriose, c'est un cas de figure vraiment où il faut consacrer une petite émission, si tu veux bien, Fabrice, à ça, parce que c'est passionnant. Mais la physionutrition peut calmer les douleurs et donc vraiment améliorer le confort des femmes dans ces moments-là de vie, et ça dure longtemps. Voilà, en gros, donc la physionutrition donne des solutions devant des pathologies ou des situations comme la ménopause qui n'est pas une pathologie, mais pouvoir mieux fonctionner, donner une alternative aux traitements hormonaux quand des fois on ne peut pas les prendre ou qu'on ne veut pas les prendre. Il y a des solutions de naturelles, de compléments, basées beaucoup sur les plantes quand on parle d'hormones. Mais pas que. La B9, B12 qui améliore la méthylation sont importantes pour prévenir des cancers du sein notamment. On peut essayer de voir s'il y a une bonne ou pas bonne méthylation et auquel cas on peut proposer des traitements d'accompagnement, de prévention pour essayer s'il y a des familles de cancers du sein. C'est une des choses qu'on peut essayer de faire parmi tant d'autres. Mais voilà, donc du coup c'est très large et ce qu'il y a de bien en physionutrition, c'est qu'on peut toucher toutes les problématiques féminines. Que ce soit le confort, que ce soit les pathologies, que ce soit la prévention, on peut avoir des solutions à ces situations-là.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Jacques Bassier. Comme chaque semaine, c'était très complet. Et vraiment, hein, rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts pour écouter toutes ces émissions. Il y a un sens dans tout, dans l'ordre déjà des émissions, dans l'ordre des sujets choisis par le docteur Jacques Bassier qui a carte blanche. Hein. Vous savez que vous invitez qui vous voulez dans l'émission.
Ah ben oui, ça c'est une bonne chose, hein, parce qu'il y a des petits trucs qu'on pourrait faire en duo, ça pourrait être intéressant.
Vous n'hésitez surtout pas, carte blanche.
Ouais.
Au docteur.
Si tu veux une carte blanche sur les sujets, je t'en remercie, c'est déjà bien.
Je ne mets pas un carton, je sais que vous aimez le foot, je ne mets pas un carton jaune, je vous mets carte blanche. On va se retrouver donc la semaine prochaine, et d'ici là, bah, portez-vous bien. Alors, retour de la musique tout de suite sur Nutriradio, au revoir docteur.
Au revoir Fabrice, à la semaine prochaine.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.